Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Tant qu'un Radégon. Comme chaque lundi, il est présent, il est très heureux, oui, très heureux de pouvoir évoquer l'actualité de l'Olympique Lyonnais et surtout un succès en terre monégasque. C'est notre consultant de choc, Nicolas Putebois. Salut Nico.
Salut Razik, salut à tous.
Heureux,
salut.
Nico.
On gagne,
oui,
on l'avait dit. Hein.
Oui.
Peu importe la manière, l'essentiel est de prendre des points.
Il faut être pragmatique, voilà.
Très pragmatique.
Qui n'est pas rabat-joie, une fois n'est pas coutume.
Non.
On verra ça.
Alors, c'est les fêtes,
émission. Et voilà, c'est parti Nico qui a déjà commencé à taper dans les chocolats de Noël. Pour parler de l'Olympique lyonnais, on accueille Ilyes Kadri, qui est un acteur lyonnais. Salut Ilyes.
Salut.
Salut Ilyes.
Entre autres.
Ouais, c'est ça, ouais, un acteur oui. Lyonnais, ouais.
Voilà, parce que je dis acteur lyonnais, mais je ne sais pas comment il faut te présenter.
Ouais, je suis un lyonnais, donc oui. Je suis un acteur lyonnais.
Justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu nous parler un peu de toi, de ta carrière un petit peu?
Ouais, je m'appelle Ilyes Kadri, je suis un ancien militaire devenu comédien. C'est un parcours assez atypique. J'ai fait pas mal de projets, mais le plus connu, je pense que c'est la série Les Sauvages.
Sur Canal Plus.
Sur Canal Plus, ouais. Et plein d'autres beaux projets qui arrivent en 2024.
Et aussi sur TF1, une série sur TF1.
Ouais, Le Remplaçant avec Joey Starr.
Le Remplaçant avec Joey Starr.
Voilà.
Comme ça.
Et d'autres
j'avais
projets
vu,
qui
ça,
arrivent.
Et d'autres projets qui arrivent, hein, notamment dans le foot.
Dans le foot, ouais.
Voilà. Je pense que c'est pour ça que c'est bien de préciser, justement, pour un passionné de football et supporter de l'Olympique lyonnais que tu es, Ilyes. Oui, salut messieurs, content de vous retrouver, surtout après deux victoires de suite. Ça faisait si longtemps, c'est Jérémy, parce que, comme chaque lundi, et vous en avez l'habitude, vous pouvez réagir sur X. Ex Twitter, vous pouvez réagir aussi sur Twitch, sur Facebook, voilà, de partout. Dans le monde entier, on regarde cette émission, Nicolas Putebois, hein, faut le savoir.
Évidemment, Razik.
Oui. Et il y a vraiment Jérémy qui nous dit attention, chemise blanche pour Nico.
Non,
elle est bleue.
Elle
est bleue ciel, mais la transpiration.
Elle est
attention, voilà. Attention à la transpiration, est-ce que tu es sûr?
Un peu clair.
C'est même Tony qui t'interroge là-dessus, est-ce que tu es sûr par rapport à la chemise? Bon,
on verra.
Programme assez chargé, comme chaque lundi, encore une fois, vous pouvez réagir et on va rentrer dans le vif du sujet, évoquer ce succès à Monaco et le match qui attend l'Olympique lyonnais ce mercredi contre Nantes. C'est le premier thème de TKYTG. Même en régie, on mange du chocolat, donc on est un peu perturbé, effectivement, Nico, parce que c'est la dernière de l'année 2023, donc c'est pour ça que tout le monde est un peu excité.
Année éprouvante.
Ah, c'est normal, ouais.
C'est normal, hein.
Après une année aussi compliquée.
Exactement. Braquage à Monaco, messieurs, justement, ce succès de l'Olympique lyonnais, on le savait, hein, Monaco, c'est pas Toulouse, hein. C'est un adversaire un peu plus coriace, un peu plus difficile à manœuvrer. On va commencer par toi, Nico, comme chaque lundi, un peu ton regard sur cette victoire lyonnaise.
Effectivement, c'est le bon titre, Braquage à Monaco, un bel hold-up. Comme on les aime. Ce que j'ai apprécié en fait dans ce match-là, au-delà du contenu et du résultat, c'est plutôt les intentions et l'état d'esprit affiché par cette équipe-là. Cette solidarité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, défendre ensemble, défendre bas, mais de manière compacte, les uns pour les autres. Ça ressemble à une nouveauté dans l'OL 2023-2024. Donc voilà, je tenais à le préciser et à le valoriser parce que on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Et en effet, quand une équipe comme ça se dessine, quand on joue les uns pour les autres et qu'on a un projet commun, ben à ce moment-là, on commence à avoir des résultats. Et même quand on ne mérite pas de gagner, et ben, le sort devient favorable pour nous. Et sur une belle action, on gagne 1-0, on les écrase 1-0 et c'est très très bien.
Il y a Xavier qui nous regarde depuis Paris. Salut à toi, Xavier. Et puis, il y a quelqu'un qui t'interroge justement. Et on va te donner le ballon à Ilyes justement, si tu joues au football ou pas. Est-ce que tu joues au football
Ouais, j'ai joué au foot. Ouais.
Tu as joué, tu joues?
Ouais. Non, je joue plus, mais j'ai joué. Ouais. Voilà. J'ai joué à Mions.
Très bien.
À Mions et voilà.
Ok. Allez, on revient sur ce match justement, ce succès à Monaco. Quel est ton avis, toi?
Ça va.
Je n'ai pas voulu poser la question, justement, pour ne pas te mettre mal à l'aise.
Ton avis, bidon.
Voilà, exactement.
Non, ça va.
Ça va. Ton avis, justement, par rapport à cette victoire à Monaco?
Bah, moi, oui, je suis d'accord, c'était un braquage, mais après, on n'en a pas démérité. Je trouve qu'on retrouve un peu notre équipe. Au milieu de terrain, moi, je trouve que c'était très bon, avec Tolisso et Cacré qui ont fait un très bon match. Mais ça a pêché en deuxième mi-temps. Mais voilà, O'Brien qui fait toujours des matchs très, très bons. Lacazette, je trouve qu'on retrouve notre Lacazette qu'on avait perdu, voilà, qui revient avec la tête à l'endroit. Et voilà, on retrouve cette solidarité dans l'équipe et on n'a pas démérité. Ouais. Franchement, on n'a pas démérité.
Deux matchs en prendre deux buts, messieurs. Ça aussi, c'est important, Nico.
Ouais, c'est important. Ouais, bien sûr. On le savait que l'OL prenait beaucoup trop de buts. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Pierre Sage a aligné cette défense à 5. C'est pour se séréniser, pour avoir un peu plus d'impact défensif, pour d'abord être imperméable. Et puis ensuite, bah, sur un contre, d'ailleurs, on fait du jeu de transition. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des bons résultats. Mais d'abord, on ne prend pas de but. Et ensuite, si on peut, sur une contre-attaque ou sur une phase de transition, marquer comme, ou mettre une petite banderie comme ça a été le cas, ça fonctionne. Non, mais voilà, il faut d'abord remonter au classement, prendre des points avant d'installer un jeu de possession et avec une vraie philosophie de football.
Défense à 5, justement, la compo s'affiche sur votre écran.
Défense à 5. Mais alors, je vais être un peu plus mitigé qu'Iliès, parce que même si je suis extrêmement content et satisfait du résultat, on l'avait dit, aujourd'hui, il faut être pragmatique.
C'est le cœur qui a parlé, désolé.
Non, mais j'entends. c'est tout à fait bien. Je n'ai pas de soucis avec ça.
Début de saison compliqué.
Après, moi j'ai mon rôle de consultant et d'ancien joueur qui rentre en jeu.
Ah, mais Iliès a de raccrocher, hein. Il s'excite sur les réseaux sociaux, vous pouvez le suivre sur Instagram si vous souhaitez, Iliès, après les matchs de l'Olympique.
Ouais, j'ai failli, ils m'ont fait du mal, Lyon.
La première mi-temps est cohérente, mais on fait pas de frappe.
Ouais.
La première frappe, elle intervient par Alexandre Lacazette en début de seconde mi-temps. En fait, en termes de contenu offensif, C'est pauvre.
C'est pauvre, ouais.
C'est pauvre. Par contre, en termes de débauche d'énergie, en termes de jeu collectif et ce qu'on appelle le coulissage les uns par rapport aux autres, le mouvement les uns par rapport aux autres, il y a du vrai, il y a vraiment du mieux par rapport à cette équipe-là.
J'ai envie de profiter, parce qu'on a quand même sur un plateau un ancien joueur, en plus qu'un fin tacticien, à ses heures perdues, de justement de voir par rapport à cette composition en phase défensive, pardon, que tu t'étayes un petit peu ton propos. Que tu puisses nous donner un peu de biscuit.
Ah, mais du coup, enfin, on l'a vu, et d'ailleurs on l'a vu encore plus en fin de match, où il y avait vraiment deux lignes de 5 qui coulissaient les unes par rapport aux autres. Alexandre Lacazette s'était incorporé dans le milieu de terrain pour vraiment être le bouclier de cette défense, le premier joueur, et qui coulissait de façon à essayer de récupérer les ballons. Les deux lignes étaient très compactes, il y avait peu d'espace entre les lignes, ce qui laissait peu de place pour les monégasques pour jouer dans les intervalles, pour créer des décalages, Alors, ce que je regrette un peu, c'est qu'en seconde mi-temps, le bloc a beaucoup reculé et on s'est retrouvé en bloc très très bas.
Exact.
Ce qui fait que, on est à la merci quand même d'une erreur, d'un loupé. Mais en tout cas, ça a été très bien fait de par la volonté affichée par les 11 joueurs qui étaient présents sur le terrain.
Il y a Anne qui nous dit « Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Peu importe le braquage, l'urgence est de prendre des points et de sortir du bourbier. Après, on passera. » Oui, c'est important aussi ça, parce qu'au début, on est exigeant, on veut du jeu. Mais finalement,
c'est de prendre les 3 points et de se sortir de ce cataclysme. Voilà, et le plus important, c'est qu'on ait gagné les 2 matchs, qu'on a pris 6 points en 2 matchs et on est 16e. On est toujours en zone orange, mais voilà, il faut s'en sortir et il faut gagner. On est plus en zone rouge.
On serait sur l'autoroute là, des vacances. On va regarder la statistique justement, parce que tu l'as dit, Iliès, très justement, l'Olympique Lyonnais 16e après son succès à Monaco, donc n'est plus dernier lanterne rouge de Ligue 1 pour la première fois depuis le 21 octobre dernier, à la veille de sa défaite à domicile contre Clermont, soit 55 soirs de suite où l'OL est resté lanterne rouge de Ligue 1. Il y avait de quoi péter un plomb, c'est vrai. On peut comprendre. Hein. On peut comprendre des soirées difficiles d'Iliès, entre autres. On a regardé justement côté la compo par rapport en phase défensive. On va regarder la compo initiale. Messieurs, si vous voulez bien, les choix opérés par Pierre Sage, c'est la continuité par rapport justement... par rapport à, j'ai un trou, j'allais dire...
Toulouse.
Toulouse, merci.
Face à Toulouse. Il a reconduit le même 11 dans une configuration différente, puisque Ryan Cherki était plus en numéro 10 la dernière fois. C'est bien un peu de continuité dans ce monde-là, par rapport aux automatismes, par rapport à la confiance engendrée les uns par rapport aux autres. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai apprécié, Elias l'a très bien précisé, c'est qu'il a reconduit le milieu de terrain Cacré Tolisso, qui sont vraiment complémentaires, mais on en parlera après.
Enfin, bon match, enfin, on en parlera après. Ouais. Voilà. On a eu un bon milieu.
Mais effectivement, voilà, on a été pauvres offensivement, parce que Monaco est une équipe qui est bien plus huilée, avec un jeu beaucoup plus posé, avec des arguments bien meilleurs que l'OL aujourd'hui. L'OL est encore convaincu. Mais en tout cas, les points se prennent. On a raison, enfin, notre internaute avait raison. L'essentiel, c'est les 3 points. Mais si on veut vraiment, si on est ambitieux comme on l'est aujourd'hui à l'OL, on peut pas se contenter de ça. Mais en tout cas, là sur la période, il y a un futur match qui se présente face à Nantes. Le mois de janvier sera encore un peu compliqué pour essayer de ressortir du lot, mais une fois qu'on sera dans le milieu du tableau, à ce moment-là, Pierre Sage, et j'espère que ce sera lui, pourra enfin développer sa stratégie et son plan de jeu, qui est plutôt la possession du ballon avec un vrai jeu offensif et des vrais, circuits préférentiels. Pardon.
J'avoue, je n'ai pas anticipé, en tout cas, je n'ai pas prévenu Iliès que tu étais très bavard. Il est très bavard.
Il n'y a pas de
n'hésite pas à le couper,
à
intervenir, parce que sinon, tu n'auras pas beaucoup
de place. Oui, mais il regarde l'émission tout le temps. Donc
oui, mais quand même, quand même. La défense à 3, ce schéma, et c'est ce qu'a déclaré justement Pierre Sage avant la réception de Nantes, n'est pas définitif, car les solutions d'une période ne sont pas forcément celles des suivantes. Mais voilà, c'est important aussi parce que c'est ce que tu avais dit, Nico. Je sais, Nico.
Merci, Razik.
Razik, je t'ai prévenu, Razik. Oui, Nico Puybois, je sais, tu as raison, tu es un ancien joueur, tu connais le football. Mais c'est vrai que, clairement, aujourd'hui, solution d'urgence.
Il est pragmatique.
Pragmatique, parce qu'en fait, c'est objectif maintien. On ne va pas se raconter d'histoire, yes.
Ça me fait mal au cœur de dire ça, que Lyon, notre objectif, c'est le maintien, alors qu'on est quand même une grande équipe. On était une grande équipe européenne. Je pense à 2020, quand on était en Ligue des Champions. Je pense à nos belles années début 2000. Et là, qu'on joue le maintien, je vous avoue que pour un gun, et pour tous les guns, c'est compliqué, vraiment. Ça fait mal au cœur. Mais bon, il faut se maintenir, hein, parce que pour moi, c'est hors de question qu'on aille en Ligue 2, ce serait catastrophique, vraiment. Pour un club comme Lyon, catastrophique.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Lucas? Je vais court-circuiter un petit peu nos amis de la régie, parce que j'ai vu, découvert un petit tweet là, qui m'intéresse. Je vois beaucoup trop d'enflammades. Est-ce que vous pensez pour vous que voilà, on s'enflamme un peu trop, à tantiner trop, à tantiner?
Oui, mais on le sait. On se l'est dit.
Ouais.
Non, mais on est content de la situation.
Ah, vas-y.
Enflammable, mais après, moi je suis content de retrouver cette équipe, cette ferveur, et les résultats sont là. Donc on s'enflamme, oui, mais parce qu'on y
croit. C'est légitime pour toi.
Ouais, pour moi, c'est légitime. Après ce début de saison catastrophique.
Eh bien, moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie, c'est possible en régie, d'avoir un habillage débat, un habillage à la lyonnaise, justement, et d'entendre Nico Puybois et Iliès se confronter un peu par rapport à ça, parce que je sens que Nico, il n'est pas vraiment d'accord.
Ouais. Non, moi, je suis plus mesuré, forcément, parce que le juge de paix, ce sera le match face à Nantes, parce que tu perds contre Nantes.
On ne parlera pas contre Nantes.
Je le souhaite, et je suis supporter aussi de l'OL, donc bien sûr. Mais par rapport à ce qui est proposé, par rapport à ce qu'on propose, par rapport à ce qu'on voit dans le jeu, aujourd'hui, on est plutôt une équipe qui défend bien, enfin, en tout cas, qui défend fort et dur, et qui se projette en contre-attaque. Ça va pas. Enfin, sinon, on ne vient pas pour faire le jeu. Il va falloir qu'on ait le ballon. Qu'on ait des phases de possession. Il va falloir qu'on soit un peu plus entreprenant dans le jeu. Et si on propose ce qu'on a proposé face à Monaco, ça risque d'être un peu plus limité. Donc voilà, aujourd'hui, l'OL n'est pas une équipe qui a la capacité d'entreprendre des choses avec le ballon.
Yes.
Mais ça demande qu'à changer.
Bah je suis totalement d'accord. C'est vrai que face à Monaco, la vérité, on a vraiment...
Tu vois, il est d'accord.
Non, mais il y a des choses. Oui, mais voilà. En fait, il y a le cœur et la raison. Non, mais là, je vous parlais avec la raison. Non, c'est vrai que face à Monaco, c'était vraiment compliqué. Mais Lopez qui nous a fait un très bon match. C'était compliqué pour nous. Après, je trouve, honnêtement, on n'a pas été mauvais. Kalutatsar a fait un très bon match. Notre milieu a été...
L'attitude a été très bonne,
ouais.
De chacun, défensivement.
Ouais, c'était très bon. Enfin, très bon. C'était bon. Et voilà, on s'est donné les moyens.
Oui, mais
et...
c'était nul avant, donc aujourd'hui,
ouais.
Ça ressemble à du...
Oui, donc est-ce que tu peux comprendre les gens qui s'enflamment un petit peu,
oui,
forcément
alors,
positive attitude, messieurs, ou pas?
Non, mais je peux comprendre la positive attitude des supporters. C'est pour ça que nous, on est là pour voilà, il faut avoir raison gardée. Il faut toujours faire attention de ne pas se projeter trop loin.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que, franchement, on est très content d'avoir pris les 3 points face au Monaco. Mais on les mérite pas.
Quand même, oui, on les mérite pas, mais Monaco quand même, on a pris les 3 points face à Monaco, qui est, pour moi c'est une...
Mais ça me rappelle des moments où on avait perdu à la belle époque contre Caen, on avait perdu 1-0 là-bas. Enfin voilà, même les équipes championnes perdent des matchs. Donc du coup, voilà, Monaco qui est très solide, qui a un vrai projet de jeu, était certainement meilleur que nous, aussi bien collectivement qu'avec le ballon. Mais l'OL a retrouvé ce supplément d'âme qui plaît. Et c'est pour ça que les gens s'enflamment, en fait.
Exactement.
On retrouve des valeurs qui nous ressemblent. Et c'est pour ça qu'on s'attache, depuis 2 matchs, à cet effectif-là.
Il y a aussi le débat par rapport au mot braquage, notamment Sandrou qui nous dit « Pourquoi parler de braquage? Monaco n'a pas su marquer. Anto a fait des arrêts et des défenseurs présents. Ils ont eu l'occasion de marquer avec un but d'école. »
Non, il faut être objectif. C'est, franchement, il suffit de regarder les statistiques. C'était un braquage, franchement.
Les expected goals, là, on est à 0,7.
Ouais, Monaco, ils nous ont dominé sur tous les domaines, que ce soit offensivement, défensivement. C'est un braquage. On a arraché une victoire difficile, mais voilà, on a marqué. Mais ouais.
Mais à l'état d'esprit, avec ce supplément d'âme qu'on ne voyait plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Effectivement, les points, on va les prendre. L'important, c'est les 3 points, ce fameux adage, et là il est très juste. Aujourd'hui, on a besoin de ces 3 points, peu importe la manière, et on l'avait dit dans cette émission. Quand Pierre Sage a pris l'équipe, il voulait, il a exposé son plan de jeu, il veut avoir la possession, il veut une équipe qui joue au ballon, avec des phases offensives, et ainsi de suite. Au bout de 2 matchs, il s'est rendu compte que d'avoir le ballon et de jouer ne lui permettait pas d'être performant défensivement. Il a retravaillé, il a revu sa copie. Aujourd'hui, on est performant défensivement. Et en contre-attaque, on a des arguments. Donc, ça paye. Voilà, simplement. Mais voilà, c'est pas le jeu qu'il veut mettre en place. C'est pas le jeu qu'on aime à Lyon.
Ouais.
Mais en tout cas, aujourd'hui, ça performe. Ça prend des points. Donc, ça nous suffit. Ça, on s'en contente.
T'as dit quoi, Yes?
Non, j'ai dit défensivement, mention spéciale à O'Brien, qui pour moi est le. Qui fait, malgré les difficultés de l'OL, fait une saison correcte.
Il y a David qui nous dit on a été bon dans notre style de jeu actuel.
C'est très bien résumé. Anto Lopez nous a fait 2-3 arrêts. Alors, il y en a un qui est vraiment important. Les autres, c'est des arrêts de gardien, quoi. Si tu les fais pas, il faut changer de métier. Mais en tout cas, il a été là. Il faut les faire. Il y a une période où il les faisait moins. Parce que du coup, moins de confiance, perturbé par le contexte et ainsi de suite. Là, sur ce match-là. Clean sheet, il n'a pas fait d'erreur, il a fait un très bon match. Voilà.
Il y a Frédéric qui nous dit, Fred, qui est un fidèle d'ailleurs téléspectateur, qui en regarde depuis l'étranger, qui nous dit que le jeu actuel est adapté à notre niveau. Enfin, le jeu est adapté
à notre niveau. Au niveau d'effectif.
Je suis d'accord. Voilà.
Oui, je suis d'accord.
Évidemment. Non, mais c'est là où Pierre Sage est très pragmatique, en fait.
Tout à fait.
Il s'est rendu compte au bout de 2 semaines d'entraînement et 2 matchs que aujourd'hui, sa philosophie de jeu ne pouvait pas être mis en place par les joueurs composant cet effectif.
D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. C'est la première fois depuis longtemps qu'on fait cette émission ou qu'on est raccord avec l'entraîneur en place. C'est-à-dire qu'il ne triche pas, il dit vraiment ce qu'il pense, on est vraiment plus ou moins sur la même longueur d'onde que lui.
Il a une simplicité, une humilité.
Il n'y a pas ce décalage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce...
Mais parce qu'il parle foot.
Parce que souvent, on a l'impression qu'on nous raconte
il se vend pas.
Des salades. Lui, il ne se vend pas, il est très calme, très serein.
Il n'est pas là pour défendre son bilan, il est là pour être juste et faire son boulot, faire ce qu'on lui demande.
Et pour l'instant, il fait ce qu'on lui demande.
Et donc, pour toi, tu souhaites qu'il poursuive l'intérim, qu'il devienne entraîneur?
Moi, du moment que les résultats sont là et qu'on est les causes, ouais, je veux qu'il reste. Changer d'entraîneur tout le temps, c'est pas bon. Ça détruit un peu le... Ça décrit un peu ce truc qu'on a dans l'équipe.
D'ailleurs, on a vu John Textor d'ailleurs à Botafogo qui a changé beaucoup d'entraîneurs et finalement ils ont perdu le titre.
Et même quand ça se passait bien.
Et voilà, ils ont perdu le titre. Est-ce que c'est pas une leçon aussi pour John Textor se dire j'ai peut-être, excusez-moi l'expression, foiré avec Botafogo.
Avec moi,
je vais pas faire la même chose avec l'Olympique Lyonnais. Laissons Pierre Stage sur le banc de l'Olympique Lyonnais. On voit qu'il fait du bon boulot, qu'il est pédagogue, qu'il est calme, qu'il se la pète pas. Il a l'image de Lyon. Quelque part de la ville de Lyon, l'Olympique Lyonnais, les valeurs lyonnaises. Hein, ce que tu reproches à plus ou moins Laurent Blanc ou à d'autres.
Ou à d'autres, qui prennent les gens de haut, qui eux sont les spécialistes. Voilà. Lui, il est là, il a des idées, il les transmet, il a un message qui passe, il a des résultats, mais sans s'enflammer, tout en restant humble. Et ça, c'est le mot le plus important. Et c'est ce qui a perdu l'OL depuis 5, 6, 7 ans, c'est l'humilité.
Oui, d'accord.
Voilà, l'humilité, le travail.
D'accord.
Le fait
d'accord
de vouloir. Bah, ouais, mais c'est l'essentiel de la vie, en fait, et de relations humaines. Donc, c'est pour ça que ça allait plus. Aujourd'hui, on a retrouvé quelqu'un de simple. Il est précis, il est juste dans ses analyses, il doit être juste dans ses propos. Il est humble, il est là au travail et au service du club. Si on change, je crois que je me désabonne. Mais ça va, je suis pas abonné.
Oui, comme Iliès, il aime bien le cinéma, Pierre Sage. Oui, je vous le dis, regardez, écoutez l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
On a l'impression que c'est une victoire qui a été construite, en tout cas, qui arrive à 5 minutes de la fin. Mais est-ce que vous aviez prévu un tel scénario?
Non. Parce que sinon, je pense qu'on aurait pu vendre les droits à Hollywood. Mais bon, surtout, ce qui a été très bien dans notre match, c'est qu'on a fait une bonne première mi-temps, je pense, qui était dans la lignée de ce qu'on avait préparé. À l'inverse, le début de deuxième mi-temps a été très difficile. On a vraiment laissé le ballon, on n'arrivait pas à sortir de nos 30 mètres. Mais en tout cas, les joueurs ont fait preuve de valeur. Anthony Lopez a fait des arrêts extraordinaires aussi. Donc ce qui permet à l'équipe à un moment donné de garder ce résultat, et des joueurs frais sont rentrés et ont profité dès leur premier ballon d'une situation pour récompenser l'ensemble de l'équipe. Donc je suis très content que ce soit ces joueurs-là qui marquent, puisque en fait le signe est très fort pour l'équipe, ils viennent donner de la valeur aux efforts fournis par les partenaires. Et c'est plus dans ce sens-là que ça m'intéresse, puisque ça rallie à la cause collective un maximum de joueurs.
Des propos qui résument à merveille ce qu'on disait précédemment, en fait, justement, Nico.
L'objectif commun.
Qui, entre-temps, moi, je suis désolé, je suis obligé de tout balancer. Hein. Pendant qu'on était en train de regarder attentivement les propos de Pierre Sage, on écoutait les propos de Pierre Sage, Nico Puteboy, qui a mangé une papillote. Voilà, bon, c'est comme ça. Que voulez-vous?
Très bonne.
Ouais, franchement, Ilias, c'est vrai, quand tu écoutes Pierre Sage, tu te dis, entre guillemets, c'est précieux d'avoir quelqu'un comme ça, parce qu'il fallait de la sérénité
bien sûr.
Dans cette équipe, dans ce vestiaire lyonnais.
Bah oui, après, là, ouais, ouais, c'est ça, il faut trouver cette sérénité, il faut retrouver cet équilibre, et le plus important, ouais, c'est d'aller dans le sens du club, d'aller dans le sens de la victoire, tout simplement.
Il y a JC qui nous dit Pierre Sage est un tacticien hors pair, très bonne analyse du foot et humble, pardon. Rares sont les hommes de cette trempe. Il faut dire aussi, parce que je lui ai posé la question en conférence de presse ce lundi à Pierre Sage, je lui ai parlé de Jérémy Bréchet. Parce que je trouve franchement,
la même chose.
Il fait énormément de bien, aux joueurs, à cette équipe. Que ce soit à l'entraînement, que ce soit lors des matchs, parce que tu regardes un peu ce que tu connais en plus très très bien.
Est-ce on que... le voit, ça s'est vu. Mais, ouais. mais déjà lors de l'intermède avec Jean-François Vulliez, on a vu l'importance de Jérémy. Mmh. On avait, bah, en fait, c'était déjà un travailleur de l'ombre. C'était pas quelqu'un qui était mis en avant.
Pareil, ça pète pas non plus, excuse-moi.
Voilà, très simple, très humble, qui travaille, qui est au service du collectif, qui est au service du club. Et on a besoin beaucoup plus de ce genre d'individus, de ce genre de personnalité, que des gens qui veulent à tout prix se mettre en avant, qui veulent venir se servir du club pour aller plus loin, pour aller plus haut. Voilà, eux, ils sont au service de l'OL. Donc, c'est ces gens-là, c'est des gens qui aiment le club. Ils sont investis forcément pour la réussite de l'OL. Ils sont pas dans la réussite personnelle. Mais ça fait du bien.
Comme chaque lundi, je cesse de le répéter, on est diffusé sur toutes les plateformes dans le monde entier et on a un message de sympathie, merci beaucoup. En plus, sur Twitch, c'est plutôt les jeunes. Donc, mais nous aussi, c'est quoi, vraiment sur Twitch.
Même moi, je connais pas Twitch.
Mais nous aussi, vraiment, c'est un réel plaisir, sans démagogie aucune, un réel plaisir de vous retrouver chaque lundi, même si c'est la dernière de l'année 2023. On est un peu triste, mais on se retrouvera bien évidemment en 2024 avec grand plaisir. Et on retrouve aussi avec grand plaisir le classement de Ligue 1 quand même, parce que l'Olympique Lyonnais n'est plus dernier,
voilà,
plus en termes rouges.
Classement.
Voilà le classement,
on n'osait plus regarder depuis
longtemps. On va regarder
longtemps.
Ce classement, l'Olympique Lyonnais qui est 16e de
Alléluia
Ligue 1.
On remonte.
Mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous le savez, parce que nous sommes très exigeants, comme tout à chacun, en tout cas on l'espère, il y a un calendrier qui attend l'Olympique Lyonnais, et on va le découvrir aussi, ensemble, ce calendrier, et il y a ce match à Nantes, contre Nantes,
contre
pardon,
Nantes à domicile.
Puisque c'est à domicile, ce mercredi, 21h, pardon, pareil, ne pas s'enflammer, faire attention, parce que Nantes reste sur une défaite et peut-être qu'on va se dire c'est facile maintenant, l'OL est lancé. Ouais, y a un danger par rapport à ça.
Bah oui, on est partir pas. Je reviens à ce que tu as dit au début, ouais, partir trop confiant, ça peut nous être fatal. Parce que Nantes n'est pas une mauvaise équipe, hein. Même si la victoire est impérative.
Surtout, en fait, faut faire attention à l'enflammade. C'est pas parce qu'on vient gagner deux matchs en faisant beaucoup beaucoup d'efforts que le troisième match, ça va être la suite logique de ce qu'on a proposé. Bien au contraire, il va falloir les mêmes ingrédients, la même débauche d'énergie, la même implication de chacun, aussi bien offensivement que défensivement. Et ça, quand on joue tous les trois jours, quand on a eu une première partie de saison assez délicate, voilà, mentalement, il faut pas être déjà en vacances. Il faut pas, voilà, il faut faire attention à ça parce que voilà, c'est pas parce qu'on a gagné deux matchs précédents que ça va être naturel de gagner face à Nantes. Il va falloir aussi faire une grosse débauche d'énergie.
Ouais, effectivement, c'est important de le préciser. C'est pas gagner d'avance entre guillemets.
Jamais, jamais,
jamais, jamais, jamais.
Et encore plus face à un adversaire qui a perdu le match d'avant.
Sur le calendrier, on l'a pas vu, mais bien évidemment, il y a la match
de
Coupe de
France,
France
à Pontarlier.
À Pontarlier, à Besançon, ça
à
va
Besançon,
jouer à Besançon début janvier. En début d'après-midi en plus, je crois,
14h30 15h, 14h30 ou 15h, exactement, c'est les horaires de la coupe.
Donc attention.
Ensuite, il y aura Le Havre, qui est un adversaire juste un peu devant nous. Et le dernier, je ne me souviens plus, je suis un
poisson rouge. Rennes.
Rennes qui est 13e, je crois, quelques points devant nous. Donc voilà, c'est...
Tu peux parler sans langue de bois ?
Oui.
Bien sûr.
Franchement, c'est des adversaires qui sont prenables. Hein.
Bien sûr, il faut 9 points là, c'est ça ?
Ouais, il nous faut les 9 points. Franchement, c'est pas, pour moi, c'est pas des équipes qui me...
9 points pour toi ?
Non, bah, j'aimerais bien.
Oui.
Mais c'est pas des équipes qui m'effraient. Donc pour moi, ouais, il nous faut ces 9 points impérativement. C'est pas, voilà, c'est pas des clubs qui me font peur.
Mmh. Voilà. Tu vois, ça c'est le renouveau en fait.
Mais Erwan dit la même chose. Hein. Erwan nous dit la même chose.
C'est pas parce qu'on a gagné deux matchs.
Oui.
Que tu... enfin, voilà. Parce que c'est des équipes sur lesquelles il va falloir que tu fasses le jeu, encore
mais
une fois.
C'est championnat.
Okay. C'est des équipes comme ça, oui.
Alors, c'est tes adversaires directs. Oui, mais...
J'ai des points, voilà.
Je sais.
Débat, habillage, débat. Allez, débat.
Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il faille des points. Mais c'est pas parce qu'on n'avait pas pris de points depuis le début de la saison, quasiment pas. On avait une victoire face à Rennes et Bruno nous l'avait donné. Et donc, du coup, ensuite, il y a un renouveau. Mais pour le coup. Mais il faut pas avoir. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est encore une fois avoir cette.
Je suis d'accord.
Ce calme,
je suis d'accord
cette humilité et de se dire, il va falloir aller chercher ces points-là face au Havre. C'est jamais gagné d'avance. Face à Rennes, ils vont être revanchards. C'est pas gagné d'avance. Enfin, tu vois.
Après, moi, j'ai l'impression vraiment qu'on a retrouvé cette sérénité. Voilà,
Monaco nous a dominé tout le match.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais pour moi, je te jure qu'on n'a pas démérité cette victoire.
J'ai pas dit qu'on avait démérité.
Mais oui, bien sûr.
Oui, mais c'est pas Monaco, là.
Les aléas du match.
Il parle du Havre, par exemple, parce que le Havre, c'est pas le championnat de l'Olympique Lyonnais, objectif
de maintien. Ben justement, c'est ce que je te dis, c'est le championnat de l'Olympique Lyonnais. Sauf que face à ces équipes, il va falloir faire le jeu.
Oui, oui.
Voilà, bah voilà, j'ai répondu. Comment t'as gagné tes deux derniers matchs? En défendant bien et en contre-attaquant.
Et tu vas pas t'énerver, c'est la dernière.
Non, mais je t'explique.
Oui.
Hop, voilà, oui. Le cheminement.
Oui.
Là, il va falloir faire le jeu.
Oui.
Bon chance.
Bon, Nico, je sais comment te
calmer. Merci, Razi.
Allez, c'est parti. Allez, on enchaîne. Allez, s'il vous plaît. Deuxième thème de TKYDG. Je suis désolé, mais il y a un commentaire qui me fait vraiment qui me fait rire. C'est Erwan, le même Erwan, qui nous dit « Nico, c'est l'humilité même. Il serait capable de nous faire croire qu'il ne va pas finir la bûche de Noël.
» C'est exact. Ah, j'ai pas mangé de papillon.
L'humilité, quand ça l'arrange, Nico Putebois. On parle du milieu de terrain. Je vais donner la parole à Elias, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, justement.
Honnêtement.
Tolisso, Cacré, ouais, où tu parlais. Voilà.
Moi, c'est mon avis, bien évidemment.
C'est pour ça que t'es là.
Ouais, je trouve que...
Il est forcément bon, c'est le tien.
Non. Moi, je trouve que sur le milieu de terrain, on a fait, c'était bon. Cacré a fait un bon match. On a retrouvé ce Cacré d'antan. Tolisso aussi a fait un bon match, même si je sais qu'en deuxième mi-temps, c'est un peu péché, physiquement. Mais le milieu, pour moi, pour ce match, on était très présents. Et je suis très content du match de Cacré. Je retrouve notre Cacré... Verratesque.
Oh là là, le comédien là.
L'enflamme.
Non, il a fait.
On avait dit qu'on s'enflammait pas.
Acteur studio. Acteur studio.
Yes.
Non, la vérité. Non, franchement.
Pas toi, pas maintenant.
Honnêtement, honnêtement, je veux parler avec la raison. Ils ont fait un bon match, même si ça a pêché en deuxième période. Ils ont été présents et cette victoire est en partie aussi un peu grâce à eux.
Comment expliquer justement qu'on retrouve le grand Cacré entre guillemets, le bon Cacré, le vrai visage de Cacré? Nico Puy-de-Bois, par rapport à son positionnement, par rapport à Pierre Sage, par rapport à un déclic personnel, comment tu l'expliques?
Alors, l'expliquer, c'est compliqué parce que je ne suis pas au sein du vestiaire, je ne sais pas ce qui a été dit, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il est mis à son bon poste. Il est mis avec un Corentin Tolisso qui enchaîne de nouveau les matchs et qui redevient performant, même si physiquement, il ne tient pas dans la durée, mais en tout cas, il redevient performant. Ce qui laisse beaucoup plus de liberté à Maxence pour aller chasser, qui laisse beaucoup plus de liberté à Maxence pour éliminer, même avec le ballon. On retrouve un Maxence Cacré qui arrive à éliminer des joueurs et à faire des passes qui bonifient le ballon, ce qu'il ne faisait pas sur la première partie de saison. Donc, il y a eu un déclic, selon moi, plutôt mental, plutôt psychologique, aussi bien sa complémentarité avec Corentin Tolisso que certainement le discours du coach qui lui permet de retrouver un épanouissement qu'il n'avait pas. Il était peut-être un peu trop... La stratégie de Fabio Grosso le restreignait peut-être un peu trop.
On parle du positionnement, justement. On l'a interrogé en conférence de presse, Maxence Cacré. On va découvrir ensemble la déclaration de Maxence Cacré par rapport à son positionnement. C'est intéressant pour comprendre un petit peu, lui, comment il juge justement ses performances. J'ai commencé la saison en jouant un peu plus haut. Avec le deuxième entraîneur.
C'est qui?
J'ai reculé.
Il ne le cite pas?
Non. J'ai reculé d'un cran. Et là, je suis redescendu encore. Là où je me sens le mieux et où j'apporte le plus à l'équipe. Je ne pense pas qu'il y ait un faux Maxence Cacré. Parce que je parlais de vrai, justement, Maxence Cacré. Il y a eu une période où j'étais moins bien, tout comme l'équipe. C'était à moi d'élever mon niveau pour que toute l'équipe aille mieux. Il y a eu une adaptation à avoir par rapport à ces changements, mais c'était à moi de réussir à m'adapter plus rapidement pour aider l'OL. Et moi, ça m'intéresse, cette deuxième part, la fin de la réponse, justement. Cette remise en question. Parce que souvent, on va reprocher justement aux joueurs de ne pas se remettre en question. C'est la faute de l'entraîneur, c'est la faute justement du positionnement, etc. Là, mine de rien, certes, il y a une histoire de positionnement, mais il y a aussi une histoire de remise en question, de se remettre en question, pardon, personnellement, individuellement, pour être au service du collectif. C'est ça, Nico?
Oui, bien évidemment. Dans les courses, dans les efforts, dans le volume de jeu qu'il avait jusqu'à présent, enfin sur les saisons passées, qu'on n'avait pas retrouvé en ce début de saison. Et là, ça fait deux matchs, effectivement, dans le volume de jeu, dans ce qu'il propose, dans les courses. Et je crois que Maxence Cacré fait partie de ces joueurs qui, s'ils font un match élevé au niveau athlétique, font un bon match global. Et sur ces derniers temps, il était très monorythme, enfin sur cette première partie de saison, très monorythme, sans intensité dans ses courses, sans impact dans les duels, il explosait tout ça. Pourquoi depuis deux matchs il a retrouvé de l'effervescence? J'en sais rien. En tout cas, il y a certains freins qui ont dû être levés par le nouveau coach, certainement. Son positionnement y est certainement pour beaucoup, Mais je pense que c'est plus lui, son travail, sa remise en question personnelle, psychologiquement. Voilà, il a retrouvé un cap. Alors attention, ça fait deux matchs. Hein.
Et j'allais dire, il y a des messages là-dessus. Hein.
On, a joué, attention. On a joué contre Toulouse, oui. Il a été bon contre Monaco. On va voir, hein, parce que c'est dans la durée qu'on voit si c'est réussi ou pas.
Yes, tu dis pareil, tu dis attention aussi.
Ouais, faut pas. Même si j'espère, honnêtement, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée, parce qu'on a quand même besoin de lui, notamment au milieu. Mais voilà, comme tu as dit, il ne faut pas s'enflammer. Et on verra ce qu'il va nous proposer par la suite.
Un ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, des grandes heures de l'Olympique Lyonnais plus ou moins, Nico Puttebois, Philippe Violo, ton ancien camarade. À ce poste, quand il parle des milieux de terrain, on a besoin de rythme et d'enchaîner les matchs. Pour être performant, il faut peu de coupures, surtout lorsqu'on avance dans l'âge. Les arrêts sont souvent plus difficiles à récupérer. Et c'est une petite transition par rapport à...
Alors là, tu parles par rapport à Quentin Tolisso ou pas par rapport à rien ?
Bonne transition par rapport à Quentin Tolisso.
J'ai bégayé un peu, mais...
C'est pas grave.
On s'est compris.
T'as encore de la papillote sur le...
C'est pour ça.
Justement, par rapport à Quentin Tolisso, forcément, il y a les blessures, il est moins performant, tout le monde est déçu par rapport à ses prestations. Là, on sent que Quentin Tolisso, il fait de bonnes performances, côté un peu taille patron, on va dire. Nico, non.
Bah, taille patron, je dirais pas jusque là, mais en tout cas, il redevient un joueur
précieux ou pas.
Ouais, précieux, oui, peut-être pas essentiel, mais en tout cas important de cet effectif-là. En tout cas, il rentre dans la rotation en tant que titulaire et pas comme un remplaçant qui vient faire des bouts de match.
Mais on sent quand même qu'il est capable quand vraiment il a son niveau, il fait du bien. C'est ça que je veux dire.
Évidemment,
en fait.
Évidemment.
Voilà, bien sûr. Bien sûr, il l'a prouvé face à Monaco.
Non, mais alors pour rapport à Quentin Tolisso.
Oui.
Il faut qu'il arrête peut-être lui psychologiquement et peut-être nous, il faut peut-être qu'on arrête d'attendre. De voir le Quentin Tolisso d'il y a 4-5 ans avant qu'il parte au Bayern. Il n'a plus athlétiquement les capacités de le faire ça. Donc il faut qu'il se réinvente. Mais aujourd'hui, il a quand même de l'expérience, de la maturité. Techniquement, il n'est pas maladroit avec ses pieds. Et puis, il a une importance. Mais par contre, il faut qu'il arrive à se réinventer. Voilà. Il aura plus volume de jeu pour se projeter vers l'avant, pour se retrouver dans la surface. Par contre, par son placement, tactiquement, par son expérience, il va pouvoir compenser, il va pouvoir permettre à Maxence Cacré d'être un peu plus libre et de lui compenser en restant sentinelle de ce milieu de terrain pour équilibrer l'équipe.
Si c'est possible en régie d'avoir le message précédent, le tweet précédent, hashtag TKYDG, bien évidemment sur X, ex-Twitter ou sur Twitch, de partout, parce que Jérém nous dit, je trouve Tolisso plus indispensable que Cacré. Tolisso, c'est le seul joueur dans son registre qu'on a. D'accord, pas d'accord? Est-ce que pour toi, par exemple, par rapport aux deux joueurs, même si c'est difficile de comparer parce que...
Ouais, bah, c'est difficile.
Oui, voilà.
Il avait les carottes.
Oui, c'est pour ça.
Ouais, comme tu l'as si bien dit, on ne retrouvera plus notre Tolisso de l'antan. Et voilà, moi, je trouve que Cacré, quand il est bon, il apporte cette fraîcheur, cette dynamique. Après voilà, je vais pas comparer les deux joueurs. Chacun a un registre très différent. Et pour le moment, on a besoin que ces deux joueurs, que notre milieu soit bon pour qu'on puisse gagner des matchs.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis assez d'accord sur le registre. Ils sont différents, donc complémentaires.
Oui, c'est ça.
C'est le plus important, en fait. Donc, il n'y en a pas un plus important que l'autre. La paire, aujourd'hui, fonctionne à l'Olympique Lyonnais, en tout cas sur ces deux derniers matchs. Et à voir dans le temps s'ils peuvent s'installer et qu'on puisse s'appuyer sur ce duo-là.
Moi, ce que je le reproche à Tolisso, c'est sur le plan physique. Voilà, j'ai l'impression qu'il a du mal à tenir tout un match. Mais,
rien visible.
Ouais. Mais voilà.
La récupération.
C'est tout ce que je peux le reprocher pour ce match.
Allez, déclaration de Pierre Sage, justement, qui évoque le duo au milieu de terrain, Quentin Tolisso, Maxence Cacré. Avoir une personne de plus derrière donne certainement un peu plus de liberté sur le plan offensif à Maxence Cacré et Quentin Tolisso. Oui, Nico Puttebois, on sait. Nico Puttebois, tu l'as déjà dit. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est que la discipline du premier permet au second de prendre plus d'initiatives et de s'engager. Et lorsque c'est l'inverse, Quentin a suffisamment d'expérience pour assurer l'équilibre.
Ah.
C'est pour ça que quand j'étais avec patron, c'est plus par rapport à l'expérience.
Ce que tu as dit.
À Monaco, tout ce qu'il a dit, Nico Puttebois, oui, il est content là. Il croit du tout. Nous sommes passés à 3.
Il est bien ce coach, hein, il devrait rester, tu vois. On est d'accord, on est en phase avec Pierre Sage.
J'arrête pas de le dire. Je trouve que je suis trop pro Pierre Sage. Mais je suis pragmatique, mon Nico Puttebois aussi. Je suis un observateur juste et pragmatique. Nous sommes passés à 3 dans l'entrejeu en fin de partie. Et ce qui est intéressant, c'est que les relayeurs ont réussi à gérer l'aspect offensif et défensif. Ça aussi, franchement, c'est intéressant.
Oui, oui. Plus l'aspect défensif qu'offensif, parce que voilà, après, on s'est projeté, les ailiers ont provoqué, mais on a plus gardé l'équilibre et on s'est plus...
Je suis obligé d'arrêter sur les ailiers. Parce que c'est important. Non, mais parce que parle bien foot, tactique, tout ça, C'est intéressant là, par rapport aux ailiers justement, par rapport à par rapport à ce milieu-là.
Oui, à ce milieu-là. Et puis en fait, ce qu'ils voulaient, c'était
libérer
les ailiers pour gagner la profondeur, pour aller chercher, pour aller mettre le ballon dans le camp adverse avec deux flèches. Et ça a fonctionné. Donc même si il l'a très justement dit, parce que on a dit bon coaching et ainsi de suite. Hop, il a temporisé direct. Si Alexandre Lacazette me dit pas qu'il est cuit, je le sors pas et ce changement n'a jamais lieu. Merci d'avoir cette humilité-là. La plupart des coachs auraient dit. Ouais, coaching gagnant, je suis le meilleur.
Je suis le meilleur.
Pep Guardiola n'a qu'à bien se tenir. Ah, c'est bon, à un moment donné, voilà. Voilà, un peu d'humilité, un peu de lucidité d'ailleurs, et de vérité.
Surtout que nos joueurs entrés, ils ont fait un très bon match.
Bien sûr.
Feigno a marqué, Metinay, ça fait un bon match.
Oui. Il faut le souligner parce que
non, c'est vrai.
C'est là que tu vois en fait le projet commun. C'est là que tu vois que tout le monde s'insère dans le discours créé par le coach pour maintenir l'OL. Ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et encore une fois, ça m'agace de le dire, mais les joueurs ont décidé de suivre ce discours-là. Ils auraient dû décider dès le départ. Voilà, donc ils ont décidé à partir de maintenant. L'avantage, c'est qu'ils ont les qualités. En plus, grâce au discours, ils ont les qualités aujourd'hui et aussi grâce à nos adversaires qui n'avancent pas d'un iota, de pouvoir sortir de la zone rouge et peut-être de se mettre à l'abri du maintien d'ici 3-4 matchs. Mais en tout cas, il va falloir encore passer par beaucoup d'efforts et quelques victoires.
Comme tu as cité son nom, Alex Lacazette et aussi Nicolas Tagliafico se sont entraînés normalement, donc devraient être opérationnels pour la réception de Nantes, justement. Petite info.
Super. Super. On va pouvoir aligner le même 11, c'est magnifique. 3 fois d'affilée. Alléluia.
Eh bien oui, et la continuité, c'est important, Nico, non ?
Évidemment. Mais c'est que comme ça qu'on construit des succès.
Hein. Exactement.
La régularité, la continuité.
C'est pour ça que tu restes sur ce plateau. Allez, Maxence Cacres, justement, sur son duo avec Corentin Tolisso. Parce que le temps file très vite, messieurs, sur ce plateau. Je pense, surtout lorsqu'on parle avec passion, je pense qu'avec Coco Tolisso, nous formons une paire qui se connaît plutôt bien. Au cours des derniers matchs, nous avons réussi à retrouver un meilleur niveau, en partie grâce à la stabilité de l'équipe. Si je monte, je sais qu'il restera devant la défense. Et réciproquement, sur nos deux derniers matchs, une stabilité défensive s'est installée, ce qui nous permet d'être plus libres pour attaquer et défendre. Ça, Nico, c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit en plus sur ce plateau, le côté compensé,
toujours,
etc. Toujours,
il y en a un qui monte, oui, l'autre doit avoir l'intelligence de garder l'équilibre.
Exactement. Tout à l'heure aussi, le fait de se compléter avec Tolisso.
C'est ça, en fait, c'est tellement bon.
Ça paraît évident.
Oui, parce qu'on a fait l'école du foot, peut-être.
Peut-être.
Jouer à 3 centraux nous aide, car nous avons toujours un joueur supplémentaire en phase défensive et on a une deuxième lame avec le second milieu. En cas de perte de balle, nous avons encaissé beaucoup de buts depuis le début de la saison et le fait de ne pas en concéder nous donne plus de confiance.
Ouais, mais ça, c'est une évidence aujourd'hui, la confiance. Les résultats vont donner de la confiance, le fait de ne pas prendre de buts vont donner de la confiance. Et la confiance va permettre d'agrémenter, d'avoir de nouvelles bonnes performances, des victoires. Et en fait, c'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est les victoires le juge de paix. Si tu gagnes, tout le monde est content. D'ailleurs, Pierre Sage l'a dit, hein. Qu'est-ce qui est important du match ? C'est pas le contenu, c'est pas le fait d'avoir marqué, d'avoir gagné 1-0 ou d'avoir encaissé plusieurs occasions.
C'est
on a gagné et les gens sont heureux. Ben voilà, que demande le peuple ? Le peuple lyonnais, en tout cas, il demande ça aujourd'hui.
On demande juste à gagner, c'est tout. Arrêtez de nous faire souffrir. C'est tout ce qu'on demande à Lyon.
Il parlait avec le cœur, là.
Par rapport à ce milieu... Parce
pas
que...
venu là pour souffrir.
Mais oui, il a raison.
Ah, ça y est.
Il a raison. Touzard et Ferry n'empêche, c'était 20 fois mieux que notre niveau actuel.
Oui, peut-être, mais et encore pas sûr, mais en tout cas, on avait des meilleures performances, l'équipe globale était bien meilleure. On peut pas forcément, alors moi je le fais tout le temps avec mon ancienne époque, mais parce que c'est ma grille de lecture, mais c'est difficile quand même de comparer les époques. Le matos qu'il y a autour était aussi différent, était bien meilleur, donc ils avaient une complémentarité, c'est vrai. Touzard était plus axial et sentinelle, et comment il s'appelle, Jordan Ferry, se projetait vers l'avant, avait un volume de jeu qui est supérieur, qui lui permettait avec ses... ce côté mobilette d'avoir un volume de jeu plus important, donc voilà, ça ressemble en tout cas.
Après voilà, soyons réalistes, hein, le club de l'OL, voilà, je pense qu'on ne retrouvera plus le club de l'OL d'antan. Il faut arrêter de...
26 piges.
Non voilà, là pour l'instant on gagne avec ce qu'on a.
Step by step.
Ah, moi, mon grand-père, il a attendu 50 quelques années ou 60 ans avant de voir l'OL gagner. Donc,
oui,
tu vois, il y en a qui ont été résilients de ce côté-là.
Ouais, je sais, mais bon.
C'est une mauvaise passe.
On a Salim Lilouche qui nous dit « J'ai une question, Razik, ce ne seraient pas les joueurs qui dictent la loi ?» Point d'interrogation. Vu la déclaration de Cacré, les joueurs veulent 3 derrière. Ils l'ont dit à Sage, mais pas à Grosso.
Je sais pas s'ils l'ont dit à Sage. En tout cas, je pense qu'il a été... lui, il a tout de suite compris après deux matchs. Il y a deux matchs où il a pris 3 buts. Lens, Marseille. Donc, il savait en tant que technicien qu'il fallait stopper l'hémorragie. Sinon, il en valait et de sa place et du maintien de l'OL. Il a été pragmatique, il a mis derrière. Après, où je suis d'accord avec Salim, cette fameuse République des joueurs, en fait. Là, c'est eux qui ont décidé aujourd'hui de mettre le bleu de chauffe pour
Bingon.
Bingon. la République des joueurs. Oui. Mais à un moment donné.
Alors n'hésitez pas justement, c'est participer au Bingon pendant le live et sur X, parce que Nico Puy-de-Bois et un peu moi aussi, on répète souvent les mêmes choses. On a des tics de langage, on
okay.
a ça comme ça, donc c'est pour ça que. Voilà.
Okay.
Et la République des joueurs, on le répète souvent. Okay, Nico okay. Puy-de-Bois surtout. Voilà.
Nico. Et vous m'avez coupé, mais en tout cas,
c'est pas grave.
Je
le direct.
Je sais plus ce que je disais.
Oui, que les joueurs décident pour
voilà, c'est ça. Tu l'as déjà dit. Ça, c'est insupportable. On l'a déjà dit. Pour le coup, j'espère que je vais que mon disque ne va pas être rayé, parce que maintenant, à eux de prouver que c'était qu'un mauvais choix de leur part et qu'ils vont enfin souscrire au discours de Pierre Sage. Mais ils l'ont prouvé sur les deux derniers matchs. Et si on regarde depuis l'arrivée de Pierre Sage, les 4 dernières rencontres. Il y avait une très bonne prestation face à Lens, mais suivie d'une défaite. Marseille, cataclysmique. Et puis après, Toulouse, c'était un peu mieux. Monaco, dans les attitudes, dans les intentions, c'est plutôt bien défensivement. Voilà, ça progresse petit à petit. En tout cas, on retrouve une équipe, un collectif.
Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que Grosso quand même a essayé le système à 3. Donc,
Oui, il les avait mis. Mais après, oui. Est-ce qu'il les avait bridés? Est-ce que c'était en termes de consignes de jeu? Encore une fois, est-ce qu'il leur laissait la même liberté? Pas sûr.
Il y a Julien qui nous regarde depuis Montréal qui nous dit, est-ce que vous allez parler de Cherki justement? Ryan Cherki qui a assez décrié.
Ilyes, ton pote, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il a?
Honnêtement, je vais vous dire la vérité, Cherki, je trouve que c'est quand même un joueur qui a un talent monstre. On peut pas le nier. C'est vrai que cette saison-là, c'est très compliqué pour lui. Je sais pas, moi j'ai pas la réponse à vous donner, je sais pas ce qui se passe. Pour moi, il est face à Monaco, il n'a pas été présent, et ça a été très compliqué pour lui. Je sais pas, moi honnêtement, je pense pas que son avenir soit à Lyon. Je pense peut-être qu'il pourra s'épanouir dans un autre club, mais là c'est compliqué pour lui. Après, je sais pas, peut-être c'est dans les vestiaires, je sais pas, j'en ai aucune idée.
Nico Puy-de-Bois, est-ce qu'il faut insister avec Ryan Cherki? Lorsque tu t'appelles Pierre Sage, tu reprends l'équipe, tu te dis, je vais mettre Ryan Cherki quand même, quand même il est de qualité, etc., qui t'apporte de la créativité.
Ouais.
Finalement, tu es plutôt déçu, même en tant qu'entraîneur, je pense. Tu fais quoi? T'insistes ou tu dis stop?
Pierre Sage, c'est un formateur. Il a le diplôme pour être formateur. Donc c'est pour ça que c'est le directeur du centre, d'ailleurs. Donc j'aurais tendance à te dire que Pierre Sage va essayer de le faire progresser. Il va continuer dans son idée. En plus, les résultats sont là. Avec Ryan Cherki, on a quand même gagné 2 matchs. Donc je pense que là, aujourd'hui, le seul qui a les clés... favorable pour son avenir, c'est Ryan Cherki lui-même.
Ouais, exactement.
C'est à lui de prendre conscience du talent qu'il a, mais que son talent, sans le travail, il rime à rien. Par contre, s'il se met à travailler, s'il se met à écouter, s'il se met à appliquer, mais à écouter les bonnes personnes, pas ceux qui lui disent que t'es le plus beau, t'es le meilleur, tu m'as fait une roulette, tu m'as fait ci, c'est magnifique. Non, c'est pas ça le football.
J'entends. Mais on voit notamment des commentaires et Saline qui répond. On voit aussi Kev qui est sur Twitch qui nous dit.
Ils en ont ras le bol.
Non, voilà, et qui disent surtout, mais en fait, il doit être remplaçant. Aujourd'hui, on lui a donné sa chance. Est-ce qu'il doit être remplaçant ou pas? Non, mais encore une fois, j'en sais rien. C'est à vous de me dire sur ce plateau. Est-ce que vous estimez pour vous qu'il doit être remplaçant ou, à contrario, non, il faut insister avec lui? Est-ce que tu peux comprendre que certains supporters disent, ça suffit, il a eu sa chance?
Moi, je comprends. Honnêtement, je peux comprendre le ras le bol des supporters, mais moi, je parle de mon point de vue.
Bien sûr.
Voilà, on est sur une bonne lancée. Peut-être qu'il va avoir un déclic. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'on va retrouver notre Cherki national. Et peut-être que la deuxième partie de saison, on va retrouver notre pépite.
En tout cas, s'il y avait un joueur à changer dans le 11 de départ, ce serait Ryan Cherki.
Oui, et pas
un
d'accord.
Donc, soit il insiste en mettant le même 11 et il reconduit 3 fois de suite la même composition et ça apporte la continuité. Voilà. Soit s'il y en a un à changer. Après, je ne connais pas les méformes physiques, je ne sais pas s'il y a des pépins, j'en sais, voilà. Mais en tout cas, s'il y en a un à changer du point de vue des performances, ce serait Ryan Cherki.
Et qui a sa place, par exemple, s'il fallait sortir Ryan? pour la réception de Nantes.
Bah après, aujourd'hui, t'as des ailiers comme Jeffinho, comme Kadé Ouéré, comme voilà. Aujourd'hui, c'est plus des. Lui, c'est plus un numéro 10. Là, on l'exile sur un côté. On l'a déjà dit ici. C'est pas. Je vais pas le dire. Faut mettre les as à leur place.
Allez, les as à leur place.
Mais voilà, il est numéro 10, il n'est pas ailier, donc il est ailier, donc on peut pas le, enfin voilà, c'est contre nature pour lui que de jouer sur un côté, même si normalement, avec les qualités qu'il a, il a le potentiel pour pouvoir jouer et numéro 10,
bien sûr,
et ailier, pour rentrer sur son pied, pour éliminer son adversaire. Il a aussi, je pense, c'est un faux lent, donc je pense qu'il a même une pointe de vitesse qui lui permettrait d'être bon sur le côté.
Même techniquement, c'est
à lui de le vouloir, c'est tout.
Techniquement aussi, c'est très bon. Il a plein de capacités. Après, voilà, je sais pas ce qui se passe dans sa tête et j'espère le retrouver. Hein. J'espère qu'on va retrouver notre Cherki en deuxième partie de saison.
Et puis lui, comme les autres, Nico, tu le répètes sans cesse, à juste titre, ça doit être toujours au service du collectif,
bien
au
sûr.
Service de l'équipe.
Voilà, bien c'est là où le bas blesse, en fait.
C'est, là, oui.
C'est qu'aujourd'hui, il joue pour lui, pour ses stats, pour peut-être trouver un club, parce qu'il y a certains joueurs qui font comme ce qu'ils font ça. Voilà, quand il se mettra au service du collectif, quand il aura compris qu'en se mettant au service du collectif, ça va rejaillir sur ses performances et sur son avenir. Il aura tout compris à ce qu'est un footballeur professionnel.
Ouais, et puis à un moment donné, il faut mettre effectivement les as à leur place. C'est ce que nous dit un fidèle téléspectateur. Et d'ailleurs, grâce à toi, grâce à Nico Puyvoy, parce qu'il se répète souvent à un moment donné, il y a trois personnes qui vont pouvoir aller au match mercredi contre Nantes. On a offert 6 places sur Internet.
J'ai vu ça.
Voilà. Et c'était la question parce que tu fais souvent à un moment donné, ils ont gagné. Grâce à Nico Puyvoy, voilà, qui était le Père Noël. D'ailleurs, ouais, tu pourrais te reconvertir, Père Noël. Ouais, Nico,
j'ai oublié le bonnet, je suis désolé.
Parce que maintenant, on voit des Pères Noël qui sont tout maigres. Hein, donc, ça change aussi tout ça.
Ouais, je rentre dans le costume.
Le monde change, messieurs, dames. On parle de mercato un petit peu ?
Allez. Hein ?
Allez, c'est le dernier thème des TK Greg DG. Ce fameux mercato hivernal, Nico Puyvoy n'aime pas ça en plus. Il n'aime pas le mercato, Nico Puyvoy, parce qu'il ne suit pas l'actualité, il ne connaît pas les joueurs. Il en a marre quand on cite des noms en disant « Mais Radic, c'est qui ce Gugus là ? C'est qui ce Pélo que tu me sors comme ça, là, d'un chapeau, etc. » Donc en fait, au-delà des noms, ce qui m'intéressait dans cette thématique, c'était de pouvoir débattre avec vous s'il fallait changer quelque chose. Parce qu'on parle de dynamique positive, faut-il tout bousculer lors de ce mercato hivernal, Yes.
Pour moi, après c'est mon avis encore une fois,
mais c'est pour ça que t'es là.
Pour moi, non. Pour moi, il ne faut pas bousculer cet équilibre qu'on a réussi à construire.
Et bien, même question pour Nico Puyvoy, et après, on fait un petit débat.
Ouais. Non, il ne faut pas bousculer. Alors, on avait une enveloppe de 50 millions qui était établie pour pouvoir faire le mercato. Je pense qu'il faut faire un ou deux ajustements, ouais, pas plus.
Pareil, vous êtes d'accord, il n'y a pas de débat.
Non, renforcer. Non, peut-être renforcer sur le milieu de terrain. Voilà.
Le profil, c'est quoi la priorité ?
Milieu de terrain.
Les ailiers aussi.
Et ailiers à la place de Cherki.
Ouais, on est pareil, il n'y a pas de débat là. En plus, ce déballage, je l'ai avec mon frère il y a quelques temps. C'est vrai, il faut renforcer le milieu et ouais.
Pourquoi et quel profil alors ?
Un profil.
Bah un ailier, peut-être un ailier plus percutant, un ailier qui voilà. Moi, il y a un truc qu'il faut comprendre à l'OL. À l'OL, on joue pour le club. L'OL, c'est un club avec une ferveur. On peut avoir tout le talent, on peut être bon. Si t'as pas cette ferveur à l'OL, t'as rien à faire dans le club. Donc déjà, trouver un joueur qui a cette ferveur et ouais, un joueur qui peut remplacer.
Cherki, ouais.
Là, on verra après pour les ventes. Là, on parle d'arrivée des
ventes. Non, on va pas parler de ventes.
Non.
C'est pas pour remplacer. C'est pour que.
Renforcer.
Oui, pour renforcer.
Pour renforcer. Donc, pour vous, priorité.
Ailier.
Mieux de terrain.
Mieux de terrain. Allez, débat. Habillage, s'il vous plaît, débat. Pourquoi, pour toi, Nico
Parce qu'il faut étoffer. On sait bien que Corentin Tolisso, physiquement, il n'enchaîne pas les matchs, même si là, il y a du mieux. Mais on sait que dans la saison, au cours de la saison, il ne va pas enchaîner les 17 ou 18 rencontres qui restent d'ici la fin de l'année. Donc, il faut un mieux de terrain pour pallier ça. Et je suis désolé pour Akoukou et pour Alvaro Scully, là, mais il nous faut un vrai numéro 6 au milieu de terrain qui vienne compléter ce trio qui viendrait.
Non, je suis d'accord, il faut.
Si, c'est pas Alvaro Scully, est-ce que Scully, comment il s'appelle?
Pardon, excusez-moi.
Non, mais en vrai,
l'ailier, toi. T'as dit ailier.
Ouais, oui, mais je reviens sur ce qu'il a dit. Il faut renforcer un peu le milieu. L'ailier, ouais, trouver un ailier, ouais. Un peu, je sais pas, qui percute.
Un murderer Scully, c'est vrai.
Qui est au service, qui est au service du collectif.
X-Files, putain. Et... Toi, t'as pas connu ça.
C'est qu'il y a les trucs des.
Oui, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ils ont l'habitude, les téléspectateurs.
Ouais, voilà.
Un ailier percutant sur le côté. Voilà. Parce qu'en fait, on l'a sur le côté.
Voilà, il nous a répondu, c'est Scully. Ouais.
C'est ce qui est dit. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit.
Non, mais tu l'as pas.
Ah, mais j'ai dit à l'américaine aussi. Bah, c'est la mode à New York.
Oui, mais bien sûr. Je parle comme John Textor, toi. Donc on comprend rien.
Il nous faut un ailier.
Hein?
Il nous faut un ailier, un pendant par rapport à Nouama. Voilà.
Ouais.
Je suis d'accord. Nouama. Nouama, ouais, j'ai... ouais, allez.
Dis.
Non, non,
bah. Ici. Oui. On entre nous. Et des millions de téléspectateurs.
Vous en pensez quoi, vous, de Nouama? La vérité, honnêtement. Enfin,
aujourd'hui, c'est percutant, mais il essaie de faire du Ryan Cherki, il donne plus son ballon. Donc forcément, ouais. Il commence à se perdre un peu. Mais quand il était un peu plus simple et qu'il est un peu plus tourné vers le collectif, il était performant, il était plutôt intéressant.
Ouais, moi, j'aime pas critiquer les joueurs, parce que voilà, mais ouais, j'ai un peu du mal, moi, avec Norma, même si...
Moi non plus, j'aime pas critiquer les joueurs.
Non, j'ai un peu du mal, même si oui, quand il est au service du collectif, il est capable de nous faire de belles prestations, mais... Mais voilà, ouais, comme tu l'as dit, il veut. Bah, j'ai l'impression que Ryan Cherki et Norma, ça se ressemble un peu dans le.
Claire Azik, je sais que t'as faim. Tu veux manger une petite papillote et nous donner ton avis? Comment tu rentres sur l'équipe?
Non, Nouama, je pense qu'il est encore jeune, il faut lui laisser du temps, que c'est pas le plus. Pour
oui,
moi,
oui.
Voilà,
oui.
Faut... Non, j'aime.
Mais quel poste du coup?
Comme il dit, tu me parles pas d'âge.
Pour renforcer l'équipe.
Le milieu, ouais, milieu aussi.
Un milieu aussi.
Avec toi, je suis plutôt d'accord avec toi. Et d'ailleurs, par contre, c'est intéressant, je voulais rebondir sur Frédéric qui nous dit un mercato pour l'interrogation, on n'a même pas un entraîneur officiel.
Mais si on a un directeur sportif,
c'est pas grave. Commençons par le début. Est-ce que pour toi, c'est problématique?
Non.
Non, c'est pas problématique. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, les résultats sont là.
Ouais, mais si par exemple, il reste pas Pierre Sage. Est-ce que c'est pas...
Bah, c'est pour ça que c'est au directeur sportif de choisir des joueurs pour renforcer l'effectif.
Pourquoi il ne resterait pas
si... bah, il n'a pas été officialisé pour l'instant.
Okay.
C'est un entraîneur intérimaire, jusqu'à la trêve. Donc,
et même s'il reste jusqu'à la fin de saison. L'idée peut-être, si on voit un peu plus loin, c'est que Frio renforce avec parcimonie, 2-3 petites touches, là, un milieu de terrain, un ailier. Et qui commence peut-être, parce que je ne sais pas si Pierre Sage, la volonté c'est de continuer l'année prochaine et ainsi de suite, mais quand tu as de la vision à moyen, long terme, parce que tu es un dirigeant et que gérer c'est prévoir, peut-être commencer à travailler avec le futur coach qu'on installera au mois de juin, pour l'année prochaine, à composer le mercato plutôt estival que le mercato hivernal. Voilà, donc là, rajouter un ou deux joueurs pour compléter... Et commencer à travailler vraiment sur l'année prochaine.
Je suis d'accord.
Parce qu'on sait que c'est qu'une année de transition.
Ouais,
on ne va pas jouer l'Europe d'ici la fin de l'année.
Ouais, pas tout chambouler et attendre les périodes estivales pour faire les grands changements. Pour moi.
Par rapport au profil, des ailiers qui jouent encore faux pied, Nouama mis à gauche et un ailier droit, droitier pour déborder, centrer.
Ouais.
Ouais.
C'est bien. J'aime bien.
Tu valides?
Bah, je valide. Et en fait, alors, ça peut être faux pied, mais en fait, et c'est là en fait, c'est ce côté alternance. Aujourd'hui, c'est la mode d'avoir des ailiers qui rentrent sur leurs faux pieds pour frapper. Mais pour apporter de la diversité dans ton jeu, il faudrait que ces ailiers puissent permuter et de temps en temps apporter le ballon dans la surface. T'as Alexandre Lacazette qui est chirurgical dans la surface quand tu lui mets les bons ballons. Donc tu peux lui apporter des ballons. Donc il faut pouvoir apporter cette variété dans le jeu pour pouvoir surprendre nos adversaires. Mais ça tient qu'aux joueurs de dézoner, de faire des courses les uns par rapport aux autres. De jouer au foot, quoi.
Alec, qui nous dit, qui est un fidèle aussi de l'émission, qu'on salue, qui nous dit un 6 obligatoire pour lui, selon lui. Toujours le même profil, physique, puissant et à l'aise au pied. Non? D'accord, pas d'accord?
Alors pourquoi physique, puissant, quand on connaît... Alors encore une fois, on n'aura pas les moyens de le faire, mais quand le milieu du Barça, c'était Iniesta, Xavi et Messi, il n'y avait pas des arbres au milieu qui défonçaient tout et qui... Voilà, tu vois. Donc pourquoi physique? Je ne sais pas, un milieu de terrain, il ne doit pas forcément être physique, il doit avoir avant, il doit avoir une bonne vision du jeu, il doit être à l'aise tactiquement et techniquement. Bien sûr. Donc un milieu de terrain, oui. Joueur, sûrement, parce que c'est ce qu'il nous faudrait, avec un gros volume de jeu. Physique, c'est pas ma priorité, en tout cas dans les critères.
Et Nouama qui pourrait disputer la CAN, si je dis pas de bêtises.
Peut-être.
Ouais, donc voilà, aussi, c'est avec le Ghana, donc c'est une donnée à prendre en compte. Avec le Ghana. Tu suis pas le football africain, toi, hein, je t'ai déjà dit, attention.
La CAN.
Eh ben, je vais regarder la CAN.
On va donner un truc, une clé pour le pirateur. Ah non, c'est pas long.
On fait pas de pub pour les TV.
Non. Par contre, faut-il réduire l'effectif selon vous, justement, profiter de ce mercato hivernal
pour
dégraisser un petit peu.
Bah moi il faudrait
dégraisser le mammouth.
Mais tu m'as mis des papillotes.
Selon vous ou pas? Est-ce que c'est problématique? Parce qu'on voit d'ailleurs lorsqu'on le club annonce les groupes, on voit bah forcément, hein, il y en a beaucoup qui restent à la maison, qui restent à Décines. parce que l'effectif est trop pléthorique.
Aujourd'hui, il faudrait faire la qualité plutôt que la quantité. Il faudrait choisir la qualité plutôt que la quantité. Donc oui, ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que pour les finances du club et pour potentiellement avoir du budget pour recruter, de dégraisser et voilà, de faire de la place un peu dans ce vestiaire. Toujours, les joueurs les plus négatifs ne sont pas ceux qui jouent, c'est ceux qui ne jouent pas. C'est ceux-là qui gangrènent un vestiaire. Ceux qui ne sont pas dans le groupe ou ceux qui sont remplaçants et qui jouent peu. C'est à ceux-là qu'il faut gérer. Et moins tu as à gérer ces joueurs-là, mieux c'est pour la vie de ton vestiaire. Donc oui, j'aurais plutôt tendance à dire que faisons partir
même
ceux qui ne jouent pas.
Aussi des petits financements pour...
Et par exemple, même un joueur qui joue comme Cherki, par exemple, pour toi, si vraiment il a des envies d'ailleurs et parce qu'il ne se retrouve plus dans le projet ou que ça pose problème... Tant qu'à faire, ou tu irais pas jusque-là ?
J'irais pas jusque-là, je sais pas quelles sont ses velléités.
Ah, j'en sais rien, je vois des messages, c'est pour ça.
Toujours est-il que si à un moment donné, il est plus en phase avec le club...
Arrête !
Je vais rire à chaque fois.
Oui, mais on dirait un Marseillais quand tu dis ça, c'est un gars.
Tu sais, non, c'est-à-dire qu'il faut lui laisser sa chance jusqu'à la fin de la saison. Et on verra après, c'est quoi la question, s'il faut s'en...
Profiter de l'occasion, si jamais une offre, par exemple, c'est le mercato hivernal, s'il se sent pas bien, s'il y a une opportunité... Comme on voit qu'en plus il est décrié par certains.
Moi j'ai envie de te dire oui. Hein. Si on là pendant le mercato là.
Il reste un an et demi de contrat. Un an et demi de contrat.
C'est le moment ou jamais pour le moment.
C'est ça. Le moment, ouais.
Voilà, sinon on récupérera jamais rien sur lui. Et puis c'est peut-être.
Après, peut-être que.
C'est l'une des rares valeurs marchandes aujourd'hui à l'OL. Ouais,
peut-être après au prochain match il va nous faire taire et.
On parle aussi de Baldé, par exemple. Ah ouais, après, le gardien de but, mais Baldé, par exemple. Il y a eu un message tout à l'heure, je crois, si jamais c'est possible de le retrouver. Mais si ce n'est pas le cas, je comprends, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de messages. Merci d'ailleurs à tous pour votre fidélité. Voilà, par rapport à Baldé, en disant, finalement, il n'y a pas vraiment de doublure pour Lacazette.
Et pour moi, il ne rentre même pas dans la rotation. Oui, on n'en avait pas parlé, parce que voilà, il a loupé le coche face à Clermont, ou Metz.
Metz.
Face à Metz, son face-à-face, là, dans d'entrée de match.
T'as dit des gros mots, d'ailleurs. Hein.
Là, j'ai dit un gros mot là.
Non, quand tu as regardé Metz,
Oui, mais j'étais chez moi, je pouvais. C'est vrai.
Mon père a eu la même réaction que toi. Je poucave. Désolé, papa.
Et oui, donc voilà. Et puis il s'est enfermé après dans sa perte de confiance. Et il a, aujourd'hui, il est même plus dans le. Il n'est même pas dans la rotation. On ne le fait pas rentrer.
Il y en a qui nous disent qu'il faut le vendre au Gol FC, à Baldé. L'équipe de Nico Puy-de-Bois qui a gagné à Nîmes. Bravo.
Merci.
Le Gol FC.
On va passer une trêve de Noël sympathique.
Allez, on parle du gardien, justement, parce qu'il y a un débat sur les réseaux sociaux, qui plus est, concernant l'arrivée, la probable arrivée de Lucas Perry, le gardien de Botafogo. Est-ce que c'est une bonne chose, selon toi, Nico ? On voit qu'il y a un débat par rapport à la concurrence, parce que finalement, Anto Lopez n'a pas de concurrence. Alors, dis-tu d'abord, et après, on va voir s'il est d'accord ou pas, si on fait un débat.
Moi, je suis d'accord sur le débat sur la concurrence. Je vois certaines choses passer sur les réseaux où je les trouve extrêmement dures et peu objectifs sur Anto Lopez. Je les trouve très dures par rapport à ce que fait Anto. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, on lui met des gardiens remplaçants qui ne le poussent pas à progresser et à agrandir sa zone de confort, à devenir meilleur. Et c'est ça qui est dommageable.
Pour moi, honnêtement, je vais vous le dire, oui. Anthony Lopez, pour moi, c'est un des quatre de l'OL. Pour moi, c'est un très bon joueur. Il est là, il nous sauve pas mal de fois. Je pense à Monaco, il nous a sauvé plusieurs fois. Après, comme tu l'as dit, oui, de la concurrence pour peut-être challenger. Mais pour moi, c'est un des avec O'Brien, un des meilleurs joueurs de l'effectif. Et je vois pas. Pour moi, c'est le gardien, c'est pas un endroit qu'il faudrait renforcer, pour moi, un poste qu'il faudrait renforcer.
En fait, moi, je les trouve durs sur les réseaux parce que, voilà, aujourd'hui, on a d'autres défaillances que le poste de gardien de but.
Bien sûr.
En tout cas, quand Anto, il est dans la cage. Alors oui, il n'est pas exempt de tout reproche à chaque fois, mais comme tous les gardiens, la perfection n'existe pas.
Ça, c'est sûr.
Ouais.
Comme tous les gardiens.
Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le maillon faible
de l'équipe.
C'est pas le maillon faible qu'on veut bien entendre sur les réseaux, en fait. C'est sûr, ça. Alors oui, un peu de concurrence lui ferait du bien. À mon sens, comme à tous les gardiens.
Est-ce que tu peux comprendre, je vais essayer un peu l'avocat du diable, que peut-être certains supporters trouvent, notamment dans les médias, qu'il y a un message qui passe en mode c'est inacceptable, ils ont déjà voulu faire le coup avec Onana, maintenant ils veulent faire venir un autre gardien, c'est pas bien de faire ça à Anto Lopez. Et quelque part, voilà, il y a ce sentiment-là qui peut-être, des fois, peut agacer certains supporters en disant ça suffit aussi, certes, Anto, ok, amour du club, etc., mais pas de passe-droit. C'est bien aussi de lui mettre un peu de concurrence dans les pattes et que là, il est un peu dans un certain confort. J'ai essayé de faire vraiment l'avocat,
c'est bien la concurrence.
Pour aller au fond du débat, en fait.
Moi, je suis d'accord avec ça. Le fait qu'aujourd'hui, il soit dans un confort, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est pas Rémy Rioux qui est venu pour prendre la place d'Anthony Lopez. On est bien d'accord. C'est pour ça que je... donc oui, il faut peut-être quelqu'un qui vienne le challenger, le tenir un peu en éveil, le tenir un peu en haleine pour qu'il continue d'être très performant. Voilà, mais qui vienne le titiller à un niveau égal.
Oui, c'est ça.
Ne pas faire venir quelqu'un juste pour qu'il soit dans un confort. Le faire venir pour le challenger, tu l'as très bien dit, et le faire progresser.
Moi, j'ai une petite encore. Question. J'ai pas suivi. C'est qui le
gardien brésilien de Botafogo? Enfin, qui joue au Brésil à Botafogo? Et donc,
un
gardien plus grand. Si son région peut me dire là, sa taille, parce que j'ai un gros doute en fait.
Encore une fois, bêtise. C'est un gardien que je connais pas.
Il est déjà difficilement
tout le championnat français, oui, le championnat brésilien.
Au-delà de ce gardien-là, mais si un gardien performant, jeune gardien, qui a du talent, qui a du potentiel, encore une fois, je fais exprès parce que Nico, ce qui me dérange aujourd'hui, moi, c'est qu'à votre époque, c'est moi qui vais le dire ça, mais à votre époque, il y avait cette concurrence qui était saine dans le sens où si tu voyais quelqu'un qui arrivait, tu disais pas, tu faisais pas, tu, grosso modo, tu savais, ouais, que ça donnait envie de te, oui, surpasser, oui, comme toi avec Greg par exemple.
Oui, sauf qu'on savait que c'était Greg qui était titulaire et qu'il y avait, enfin voilà, c'était, ouais, mais... l'équipe de France. On était là pour le vrai respect qu'on s'imposait, lui et moi,
voilà,
c'est que moi il fallait que je sois le meilleur possible pour essayer de prendre sa place et que lui il devait être le meilleur possible.
Exactement.
Pour
conserver sa place.
C'est ça. Et en fait, c'est ce qui manque aujourd'hui.
Et ça, c'est un discours qu'on avait l'un vers l'autre.
C'est ça qui, c'est ce qui me
dérange. Et tous les jours, au quotidien, pour performer, pour voilà.
Après, voilà, si on a tout recrue est bonne à prendre pour renforcer l'équipe. Si on, je ne connais pas ce gardien, mais si.
1m97.
Ok.
Par rapport à la taille, peut-être qu'il y a aussi il n'aime pas ça, Nico. Plus de
ouais, c'est de pas. Voilà, moi, un grand gardien, c'est très bien. Il aura ses caractéristiques. C'est parce qu'il est moins véloce, qu'il a, dans ses déplacements, il soit plus lent. Il n'arrive pas à sortir dans les airs malgré son 1m97. Enfin, voilà, ça, je ne le connais pas encore.
Troisième gardien de l'équipe du Brésil.
Ouais, super.
Non, c'est bon, je prenais les infos.
Mais voilà. Très bien, très bien.
Ouais, moi, je le connais pas, tu vois, je peux pas.
Non, mais moi je parle vraiment encore une fois, la concurrence, le challenger, c'était intéressant.
Oui, bah.
Et
mais
voilà.
Encore une fois, les grands gardiens, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Voilà.
Mais il y a pas de. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nico.
Chaque morphologie a ses caractéristiques propres et peut être performant à ce niveau-là. Il y en a pas besoin de faire 2 mètres pour être un bon gardien de but.
On parle aussi de Mathieu Patouillet là dans les.
Oui, ouais, qui fait une très bonne saison à Sochaux, qui est performant. On le regarde un peu parce que on est dans le même championnat. Ouais. Donc oui, il est. Mais aujourd'hui, Patouillet est en phase d'apprentissage.
Le jeu au pied aussi, on peut reprocher.
Il a progressé.
Ouais, mais on peut lui reprocher certaines choses ou pas?
On peut lui reprocher certaines choses.
Je respecte ton expertise.
Au-delà de l'expertise, on a tous un avis. C'est la beauté du foot. Après, les gardiens, on est souvent jugés par des gens qui connaissent pas le poste.
C'est pour ça que j'aimerais avoir ton regard.
Et même tout le temps, on est jugé par des gens qui connaissent pas le poste. Encore une fois, sur le match de Monaco, il fait des arrêts normaux. Pour un gardien, il n'y a pas à s'enflammer. Il a fait les arrêts.
Tu ne te revends pas le truc, ça.
Non, voilà, il a fait un très bon match, mais il a fait des arrêts qu'il doit faire.
Donc moi, je m'enflamme.
Parce que c'est spectaculaire, en fait.
Ouais.
Parce qu'il est tonique, parce qu'il a les jambes qui... Pardon, il a les jambes qui volent. Enfin, tu vois, c'est explosif, en fait.
Ouais, je vois.
C'est explosif, mais c'est spectaculaire, plus que très difficile. L'arrêt le plus difficile, c'est celui qui est au sol sur la frappe du petit jeune avec les mêmes cheveux que toi, là, à Monaco. Lilouche, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Non, pas Lilouche.
Akilouche.
Ça doit être ça.
Oui.
Ah, le petit jeune qui doit
passer
pas.
Oui.
Ah, c'est ça, voilà. La frappe qu'il fait sur le côté. Celui-là, c'est l'arrêt le plus difficile qu'il a à faire dans le match. Voilà, très, 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 très honnêtement. Après, dans le jeu au pied, je le trouve progresser. Il arrive à ressortir, à faire du jeu en une touche, à chercher les milieux de terrain. On l'a vu 2-3 fois. C'est intéressant. Il le faisait pas il y a 1 ou 2 ans en arrière. Donc depuis le passage de Peter Bosch, je trouve que Anto a progressé à ce niveau-là. Il est encore perfectible. Il a pas le jeu au pied d'un Ederson ou de ces gardiens-là ou d'un Victor Valdés à l'époque du Barça. Mais en tout cas, ils progressent.
Donc ils font raison garder, comme on dit. C'est-à-dire, on peut critiquer justement Anto Lopez sur certaines parts,
franchement,
sur certaines choses.
Ouais, on peut. D'accord. Le côté confort, le côté trop proche des supporters, tout un tas d'extra football.
Pas non plus lui cracher dessus comme si c'était
non. Non. Aujourd'hui, ses performances sportives, oui, elles sont bonnes. Et c'est pas ce poste-là qu'on a le plus de défaillances.
On a plus de lacunes, ouais.
Très bien, messieurs. 1 heure d'émission. C'est la dernière de 2023.
On va pouvoir manger des papillotes.
Tu vas pouvoir manger des papillotes. Ça fait déjà juste un paquet, mais je sais pas comment tu veux, Nico. Attention au diabète quand même.
C'est non, il y a pas.
Oui, ah, attention, ça va vite. Ça.
Parler à bouche pleine, on m'a dit qu'il fallait pas parler à bouche pleine.
Oui, exactement. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ilyes, toi, personnellement
C'est ça qu'on me souhaite que l'OL continue sur cette lancée.
Mm-hmm. Mais à toi.
Ouais, moi. Non, ce qu'on peut me souhaiter, de toujours continuer à faire ce que je fais. Et l'année prochaine, il y a plein de bonnes choses qui arrivent, dont un film sur le foot. J'en dis pas plus.
Donc on va te voir l'année prochaine en haut de l'affiche tout le temps.
C'est ça, il y a...
On ira.
C'est cool.
C'est une avant-première,
ah
bah oui, on cool. ira. Hein.
Ah, bien sûr, je vous invite.
Ah ouais.
C'était tourner à Lyon.
On va tourner à Lyon en plus. Magnifique.
Donc, voilà. Avec plaisir.
Et une série, enfin il y a une série qui arrive avec le rappeur Kops et trois longs métrages où j'ai le rôle principal, dont le film de foot qui s'appelle Les Arènes, réalisé par Camille Perton.
Parfait, c'est génial.
Bravo, bravo, belle continuation à toi.
Merci beaucoup Ilias, on va te suivre, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux notamment, et puis de liker effectivement la chaîne YouTube d'Olympique et Lyonnais tant qu'il y aura des gones. Mais oui, c'est important de liker Nico.
Enfin, liker, c'est important.
Mais c'est important, t'es d'accord?
Ah oui, oui, liker, liker, donner la force.
Donner de la force, voilà. On donne de la force à Ilias et on donne la force à tant qu'il y aura des gones. En fait, on donne de la force à Lyon.
On donne la force à Lyon, voilà, exactement. Lyon, belle ville.
Exactement. C'est vrai, Nico.
Je suis d'accord avec ça. Moi, je suis lyonnais avant tout. Hein.
On mange tellement bien. Tu sais, quand même ça, oh, c'est les papillotes, même les papillotes, c'est de Lyon. Ouais. Tu savais ça?
Bah, je sais, c'est moi qui... Oui, oui, je savais. En plus, c'est
ça. Non, mais les gamins, ils savent pas ça. Papillotes, c'est de Lyon. Vrai. Mais oui, c'est ça.
Même
c'est
le cinéma, c'est de Lyon, les Frères Lumière.
Exactement, c'est pour ça. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve en 2024. Hein, c'est le 8, je crois, si j'ai pas de bêtises.
C'est ça, Razik.
C'est ça, le 8, lundi 8, à 19h en direct. Merci une nouvelle fois pour votre fidélité. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes.
Ouais, passer d'agréables fêtes. Ouais,
profitez de vos familles.
Exactement. Dans ce moment difficile,
voilà.
C'est bien de
voilà,
se
voilà, voilà, merci, bonne fête, Jérém, etc. Du merci à tous, parce que voilà, quand on voit l'actualité,
bonheur et
hein, l'actualité en ce moment, on n'a pas trop envie de regarder tout ça. Nous, on a envie de passer du bonheur, du partage avec sa famille, etc. Et de vous souhaiter surtout une excellente santé, c'est le plus important. Merci à Hypnose, vous êtes au top, les gars, passez de bonnes fêtes. Vous aussi, vous êtes au top chaque lundi. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre bienveillance. Rendez-vous en 2024 pour une nouvelle émission de Temps Caradégone.